Isabelle Ducrot, vous êtes peintre, votre nom est français, mais vous êtes italienne. Peut-on vous demander, Isabelle Ducrot, quelles ont été et quelles sont aujourd'hui vos sources d'inspiration ?
Je suis italienne, mais surtout, je suis napolitaine. Ça fait une grande différence. Je reste tout à fait napolitaine et ça veut dire qu'on donne une grande importance au destin, finalement, que les choses arrivent plutôt qu'on veut qu'elles arrivent. Ce n'est pas un programme très clair. Donc, si je dois parler d'inspiration, je peux vous dire que je n'ai pas eu une inspiration, mais les choses sont arrivées tout à fait. Je n'ai pas fait d'académie, je ne savais pas que je savais dessiner. À un certain moment, j'ai commencé à dessiner, mais je n'avais jamais étudié le dessin. Et puis, la chose assez particulière, je pense, que tout ça s'est arrivé après mes 50 ans. Avant, je n'avais aucune idée que j'aurais pu peindre et que quelqu'un aurait pu aimer mes œuvres, et puis que j'aurais publié des livres et que des musées m'auraient accepté, invité. Tout ça, c'était absolument inouï.
Est-ce qu'on peut vous demander, Isabelle Ducrot, quel a été le déclic ?
Je pense que c'est la vie. C'est la vie, la combinaison. Après 50 ans, il y a eu beaucoup de combinaisons. Les choses se sont tout d'un coup naturellement produites. Et la chose, la plus grande surprise pour moi, c'est que je communiquais quelque chose et les gens répondaient.
Alors, par quoi avez-vous commencé ? C'est-à-dire, quelles ont été vos premières peintures ?
Je utilisais des étoffes parce que c'était important pour moi, une collection d'étoffes que j'avais fait depuis 10 ans, comme ça. Et j'étais très intéressée aux étoffes. Je pensais à la couleur des étoffes. Après, j'ai compris que c'était la structure du tissu qui m'intéressait beaucoup plus que
la structure du tissu.
Oui.
Et pourquoi ?
Je pense que maintenant, après tout cette réflexion sur ce qui m'est arrivé, j'ai compris c'est l'esprit caché. C'est l'esprit caché des choses.
Qu'est-ce que ça veut dire, l'esprit caché des choses ?
L'esprit caché, c'est que quand, tout le temps, nous avons des étoffes autour de notre corps. On ne pense jamais à la structure simple, même parce que les étoffes le cachent. Quand on voit un velours, ou bien un satin, une soie, on ne voit pas la structure. Ouais. Mais sans la structure, il n'y aurait pas le tissu. Donc, j'ai compris peu à peu, très lentement, la faculté infinie symbolique du tissu. Comme œuvre tout à fait humaine, mais tellement ancienne, tellement primitive. Et tout d'un coup, toute cette liaison entre la symbolique du tissu et la vie et la pensée, et je les ai, sont devenues une seule chose. Tout ça m'est arrivé sans intention.
Oui. Vous êtes surprise vous-même.
Je suis encore surprise.
On sait par ailleurs que une de vos sources d'inspiration, ce sont vos voyages, l'Afghanistan.
Si.
Et aussi, certains critiques disent de vous que votre art, c'est aussi une forme de religion.
Je dois vous dire qu'en occasion de cette exposition qu'il y a maintenant, que j'ai dédié tous mes travaux à des tissus bouddhistes, qui sont ceux que les pèlerins achètent pour le mettre sur les statues. Et donc, c'est un objet sacré, c'est un objet de religion, parce que c'est comme une prière. Au Tibet, c'est pas facile de trouver les fleurs comme en Inde. Donc, ils donnent quelque chose que c'est une main d'œuvre humaine. Au lieu des fleurs, ils donnent ce petit artisanat. Donc, c'est quelque chose qui comporte la religion, la pensée religieuse des gens qui les offrent. Et j'ai utilisé ça. Et puis, je l'ai lié avec une représentation qui, pour moi, est comme la prière, même seulement formelle, c'est la répétition. Je pense que dans toutes les religions du monde, on répète une litanie, une supplication, c'est toujours...
Ou bien la prière du cœur chez les orthodoxes.
Voilà. Donc, tout ça, c'est la répétition. Donc, j'ai reporté ce tissu qui part d'un côté sacré à une liaison avec toutes les prières du monde.
Qu'est-ce que cela veut dire, cette répétition ?
Pour moi, c'est la beauté. Une chose que j'ai compris de que j'étais en Orient, que ces motifs répétitifs, chez nous, on peut les user seulement comme décoration d'un sujet plus sérieux. Et ce que nous appelons la décoration, c'est le centre du tableau. Donc, j'ai vu, par exemple, des tapisseries merveilleuses qui m'ont très émue quand je les ai vues. C'était seulement des bouleaux rouges dans un fond plus clair. Et c'était comme un hymne sacro. C'était comme une musique.
Exactement, ça résonnait.
C'était quelque chose d'extrêmement beau. Donc, j'ai été séduite de la répétition. J'étais séduite. Et donc, j'ai commencé à faire des boules rouges sur quelque chose de blanc. Et puis, continuer. Et donc... On les a associés à la prière. C'est quelque chose qui c'est pas un discours logique, mais c'est seulement la joie de répéter quelque chose. Et donc la prière, c'est la chose la plus proche à la répétition.
Est-ce que c'est à partir de la répétition que finalement votre chemin est allé vers la prière ?
Si, parce que je l'ai associé à ce qu'est la prière dans le monde.
Alors, dites-nous pourquoi, Isabelle Ducrot, vous associez la répétition à la prière.
Parce qu'il y a beaucoup de prières qui ne sont pas dialectiques. Et donc, j'ai fait ce lien. Mais ce n'est pas un lien fondamental. C'est ce qui est arrivé.
Oui.
J'ai commencé à penser que quand les gens du néolithique qui ont commencé à tisser et à faire des tissus, la utilisation du tissu, c'était quelque chose de secondaire. Mais peut-être, j'ai pensé que la vraie raison qu'ils ont exercé leur technique si compliquée dans un moment où ils commençaient à être des sédentaires, c'est tellement sophistiqué que j'ai vraiment pensé qu'il devait être quelque chose de très lié peut-être à la religion de ce moment-là. Et surtout que dès que le tissu monte, marche, se réalise, en même temps, il arrache l'esprit. Et pour esprit, j'entends quelque chose qu'il y a, grâce auquel le tissu a ses caractères, sa spécificité. Et donc, il arrache ce qu'on ne voit pas, mais qui rend le tissu très différent du papier, par exemple.
Mm-hmm.
Le papier accepte l'esprit, mais seulement quand quelqu'un va y écrire un poème, une pensée. Mais le tissu transforme la matière, le textile, la matière, les fibres. Le tissu a une sorte d'âme. J'ai trouvé au Tibet une vraie prière, une prière de remerciement au Dieu d'une famille peut-être très riche, parce que c'est une prière merveilleuse à voir en soi. Et là, il y avait eu vraiment un croisement, une collaboration entre la marche du tissu qui monte et la prière qui monte aussi. Tous les deux se composent dans le même moment. Donc là, j'ai vu une vraie liaison entre la parole et les tissus. Les tissus, c'est peut-être la chose la plus proche à ce que nous sommes. Nous sommes chair et esprit.